Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est aujourd'hui avec la coach de vie Joël Dagosséry, l'éleveur de bovins, monsieur Didier Giraud, qui est avec nous, agriculteur en Saône-et-Loire, et puis l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Gébari. On vous a préparé un match tout à l'heure à 11h20 à propos de la semaine de travail de 4 jours qui va être expérimentée dans une partie de l'administration française, qui est déjà testée en Grande-Bretagne, en Islande notamment. Pour ou contre cette semaine de travail des 4 jours, contre Didier et Olivier, pour Joël et Jean-Baptiste. Vous venez arbitrer ça tout à l'heure à 11h20, au 32-16. À 11h, dans le Face au GG, on aura Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui sera avec nous. Est-ce qu'il attend de l'intervention du président de la République? J'ai déjà une petite idée de la réponse.
Oui, puis moi je voudrais savoir, parce que Marine Le Pen a dit que s'il y avait une cohabitation, elle n'irait pas à Matignon. Elle ne veut pas être première ministre, elle veut être présidente. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être première ministre au Rassemblement National? Parce que c'est, je sais pas,
on va filer la place à les fils, ils en veulent pas. Est-ce qu'on a un problème avec le maintien de l'ordre en France depuis que les manifestations ont repris? 32-16 pour venir en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Écoutez, ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin.
RMC, les grandes gueules.
Le devoir du ministère de l'Intérieur, le devoir des policiers et des gendarmes, c'est de permettre la liberté de manifestation. Et en même temps, c'est de pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes. Nous avons, à Paris comme ailleurs, pu organiser 8 grandes journées de manifestation, avec, vous l'avez vu, parfois plus d'1 million de personnes dans les rues, dans de très nombreux points du territoire, sans que les choses ne connaissent de difficultés particulières, à quelques exceptions près.
Voilà, le ministre hier qui venait justement visiter une caserne de policiers. Alors c'est vrai qu'il y a les manifestations organisées par les syndicats, et puis il y a ce qui se passe en ce moment le soir.
Oui, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment faire la distinction entre ce qu'on a vécu et ce qu'on vivra sans doute demain jeudi. C'est-à-dire c'est l'intersyndicale qui organise le mouvement et ces rassemblements qui sont plus ou moins spontanés, mais pour la plupart ils ne sont pas spontanés. C'est l'extrême gauche qui est à la manœuvre et des rassemblements qu'on voit chaque nuit maintenant depuis jeudi. Hier, selon les préfectures, il y avait 5000 personnes à Grenoble, 900 à Lille, 3500 à Paris, 1200 à Rennes, 4100 à Nantes et 300 au Mans. En général, ça se termine mal. Côté police, on dénonce des dégradations qui sont commises, notamment des commerces saccagés, des tags, des affrontements directement avec les policiers, notamment à Grenoble. Hier, depuis jeudi, il y a eu quand même 94 policiers blessés. Il y en a eu 3 grièvement d'ailleurs à Fos-sur-Mer lorsqu'on a voulu réquisitionner le personnel dans ce dépôt pétrolier. Et alors, côté manifestants, en revanche, on se plaint d'arrestations arbitraires, de gardes à vue qui n'en finissent plus. Une enquête préliminaire a d'ailleurs été confiée à l'IGPN après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. On voit un membre des forces de l'ordre qui semble donner un coup à un manifestant qui tombe au sol et qui ne se relève pas immédiatement. Le préfet de police a annoncé qu'il avait demandé une enquête administrative suite à cette vidéo. Selon les premiers éléments recueillis, un homme était en fait en train de casser un kiosque à journaux avec un pavé. Les policiers sont intervenus. Plusieurs manifestants ont voulu s'y opposer, dont celui qui a fini tomber par terre. C'était un homme ivre, selon les policiers. Des policiers interrogés qui affirment qu'il était d'ailleurs plus tard en train de nouveau de manifester. Enfin, on verra ce que l'enquête dise. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec les forces de l'ordre, dans le maintien de l'ordre, ou est-ce que c'est surtout la responsabilité de ceux qui cassent?
Joël?
Moi, je ne veux pas accabler les policiers. Je pense qu'ils font un travail très difficile. Je pense aussi que le climat instauré par le gouvernement engendre ce genre de choses. Il le savait très bien que ça allait se passer comme ça. Donc, je veux pas les accabler, mais simplement, quand je regarde les images de loin, les images, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans du maintien de désordre que dans du maintien de l'ordre. Et j'ai l'impression, et pas que sur ces manifestations-là, on peut même remonter au Stade de France, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de jugement arbitraire, de sanctions sans distinction, de gazage intempestif. J'ai l'impression vraiment que presque, j'ai peur, je me dis, mais est-ce qu'ils savent réellement ce qu'ils font? J'imagine que oui, mais à l'image, t'as l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et que ils tapent là où comme ça vient, qu'ils gazent comme ça vient, qu'ils mettent en garde à vue comme ça vient. On lit des histoires de jeunes filles qui sont en garde à vue alors qu'en fait elles sortaient de je ne sais où. On lit des histoires de NAS alors qu'il me semblait que ça avait été interdit par le Conseil d'État. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'on est plus dans du maintien de désordre que du maintien de l'ordre. Je ne sais pas de qui ça vient. Est-ce que ça vient du commandement? Est-ce que ça vient des policiers eux-mêmes? Mais j'ai vraiment pas l'impression qu'on est dans du maintien de l'ordre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'impression que ça fait quand on regarde les images.
Jean-Baptiste,
alors Joël ne voulait pas accabler les policiers, mais
les actes carrément défoncés.
Non,
quoi.
Je te dis que, non, mais pas du tout.
Heureusement que tu
ne fais pas accabler.
Je pense qu'ils m'ont très bien compris, messieurs les policiers.
Ils vont appeler au 32.
Ou ils vont t'attendre pour te mettre en garde à vue à la sortie du plateau.
Je suis sûr.
Moi, je suis assez en désaccord avec Joël. Je pense qu'on s'était justement habitué depuis 2016, les premières lois travail, à ce que les manifestations, notamment à la fin, dégénèrent un peu systématiquement et qu'on voit ces scènes d'affrontement entre une partie des manifestants et les policiers. Et je trouve que ce qu'a démontré à la fois les manifestations récentes encadrées par les syndicats et donc la capacité d'avoir des millions de personnes dans la rue toutes les semaines ou toutes les deux semaines et de le faire pacifiquement. Peut-être aussi le changement, ce que tu évoquais, Joël, de doctrine, côté force de l'ordre et le fait que Laurent Nunez est peut-être un peu mis les policiers plus à distance dans les différentes manifestations. J'ai l'impression que ça se passait un peu mieux. Là, effectivement, on voit des manifestations spontanées qui sont des manifestations, pour le coup, de désordre. Et c'est là où il y a du désordre.
Ah oui.
Et face au désordre, effectivement, tu as ceux qui maintiennent l'ordre public. C'est ça qu'on voit à la télé et sur les réseaux sociaux. Moi, je crois que depuis quelques années maintenant, tout est en ligne immédiatement, donc tout le monde réagit immédiatement.
Il faut faire attention aux vidéos aussi, parce que les vidéos, tu n'as jamais ce qui s'est passé après.
Et donc, je crois que Laurent Nunez, qui s'exprimait hier matin, le préfet de police de Paris, a eu raison de dire que on peut tout à fait lancer une enquête de l'IGPN, on doit comprendre évidemment ce qui s'est passé. Et après, il y a toujours un sujet, c'est que ça prend beaucoup de temps. Là, il y a encore sur les enquêtes de l'IGPN, et ça, c'est pas normal pour le coup, des affaires qui sont toujours en instruction, qui datent des gilets jaunes. Il faut que ça aille beaucoup plus vite, évidemment. C'est l'intérêt de tous, en vérité.
Didier.
Écoute, contrairement à vous deux, je pense, pour avoir déjà été au milieu d'une charge de CRS, je peux vous dire que c'est quand même relativement compliqué, en situation de chaos, de trier le bon grain de livret, quoi. Enfin, à un moment donné, quand ils sont là pour repousser parce que les manifestants sont trop présents, ils appliquent des ordres, ils repoussent et la preuve, c'est ce qui s'est passé depuis quelques semaines dans toutes les villes de France où tout s'est bien passé. Quand tu vas pas dégrader, quand tu vas pas chercher l'affrontement, il y a pas d'affrontement. Moi, ce que je pense, pourquoi ça se passe mal là ces nuits là depuis jeudi, c'est parce que les gens ils sont là pour en découdre quoi. Ils sont là pour en découdre et ils sont là pour aller à l'affrontement. Pourquoi ? Peut-être même pour faire des images, parce que faut pas sous-estimer le poids des images. Et quand t'as des responsables politiques qui depuis des mois, des années disent que la police tue, j'en ai écouté un hier soir sur votre antenne de la France Insoumise, comment il s'appelle, Pablo, c'est ça, Pablo?
Pablo Pierre-Vivien.
Voilà.
Ouais. Qui c'est un journaliste.
Un mec qui expliquait qu'en France la police tue et dans le monde entier la police tue. Ouais. Et quand t'as des mecs qui sont des responsables politiques ou des journalistes qui sont identifiés. Qui ont une certaine notoriété, qui vont répéter à longueur de journée que la police tue et la police sanctionne de façon arbitraire, à un moment donné, tu crées un climat aussi où comme ces soirs, les gens ils vont à l'affrontement. Non, mais derrière ça, la police réagit, c'est normal.
C'est pour ça que je parlais du Stade de France, parce que c'est pas.
Je pense que ça, c'est pas très glorieux.
On n'était pas dans une manifestation. Bon, il y avait des jeunes qui sont arrivés de n'importe où, les jeunes, qui sont venus un peu cassés. Mais t'avais aussi beaucoup de supporters anglais qui se sont plaints de la façon dont ils ont été traités. Oui, mais. Non, si, ça a à voir.
Parce qu'en fait.
Justement.
Ceux qui sont en face, ils viennent pas voir.
On a quand même l'impression que dans les interventions de la police, il y a quelque chose d'assez arbitraire. Moi, ça me gêne. Enfin, c'est pour ça que je dis que je suis.
De toute façon, on n'arrête jamais les bons. Ils interpellent toujours ceux qui courent moins vite.
On a quand même l'impression qu'il y a quelque chose d'assez arbitraire. Et quand j'ai écouté plusieurs spécialistes du maintien de l'ordre qui comparent justement à l'échelle européenne et qui expliquent que sur l'Angleterre par exemple et sur l'Allemagne,
il y a des violences.
Ils ont fait un travail de désescalade. Alors qu'en France, on a eu une doctrine qui est comment on peut être le plus fort que plus fort, que les casseurs. Ouais. Donc justement, ça entraîne ce genre de choses.
Ceux qui étaient hier à 1h du matin à la Concorde, ils n'étaient pas là pour manifester.
Bien sûr, j'en suis certaine, mais je dis juste que en tout cas,
à l'ère
des réseaux sociaux et dans les images qu'on regarde, on a très peu d'images qui
sont parfois
qui donnent l'impression qu'il y a un maintien.
On est d'accord.
Maintien de l'ordre. Enfin, moi, j'ai une image de maintien de l'ordre.
On est d'accord.
Et c'est pas celle-là.
Non, mais Joël, d'accord, mais attention aux images parce que tu peux dire tout et son contraire aux images. Et puis, deuxièmement, on peut pas, il y a une semaine, dire Laurent Nunez, formidable, le préfet de police, il a changé de méthode. Et puis maintenant, dire que c'est un nazi parce que
on
nous a dit super, le préfet de police, il a changé de méthode. Puis alors maintenant, c'est le même. C'est un barbare, c'est un nazi.
Je pense que c'est les manifestants qui ont changé d'attitude.
Il y a quelques jours, moi j'avais tweeté, je me suis fait, il y a eu pas mal de réactions. J'avais dit qu'en fait, ce sont les idiots utiles de Macron. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent, en agissant ainsi, qu'ils vont faire plier Macron. Et c'est exactement l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire que Macron, tout à l'heure, à 13h, il va se servir de ça pour dire, vous voyez, je vous protège du chaos. Vous voyez, la foule, elle est violente. Donc c'est complètement débile. C'est-à-dire que faire cela, ça joue pour le pouvoir, le parti de l'ordre. Dans l'histoire de France, ça a toujours finalement profité à ceux qui demandent plus d'ordre et plus d'autorité.
8 à 9 ans, en tout cas, pendant la loi travail, qu'on observe ce genre d'action assez violente de la part des manifestations. Et des manifestants, pardon. Et moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas pensé, justement, à comment on allait faire évoluer le maintien de l'ordre face à cette nouvelle,
on les laisse faire?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Le problème n'est
pas évolué en permanence.
J'ai pas l'impression qu'il y a une réelle stratégie, en fait.
Certaines grenades, ça évolue en permanence. Il y a eu énormément, y compris d'ailleurs depuis les Gilets jaunes, il y a eu énormément de leçons qui ont été tirées.
Il n'y a pas de mort, mais il faut quand même, dans les manifestations, il y a de plus en plus de violence. Il n'y a pas eu un seul mort pendant les Gilets jaunes. Il faut quand même, je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre compte.
Les morts qu'il y a eu, c'est des accidents de la route.
Tous ces gens-là, les flics, ils sont armés, hein. À un moment donné, on peut craindre qu'un jour, il y a un flic qui sorte son arme et qui tire parce qu'il en a marre de se prendre des pavés dans la gueule. Ils l'ont pas fait. Et heureusement. Donc, il faut quand même, à un moment donné, il faut se rendre compte comment ça se passe dans des pays où c'est pas des démocraties, où on tire.
Regardez les films, hein.
Mais encore une fois, t'as envie de dire à ces gens-là, mais allez voir ce qui se passe en Iran. Allez voir ce qui se passe dans des pays. Justement, il n'y a pas de démocratie.
Plusieurs milliers de morts en Iran récemment.
Et oui, bien sûr.
Des morts.
Ils tirent sur la foule. À bout portant.
On a des exécutions pour des manifestants. Malik qui est avec nous, qui veut discuter avec les GG. Bonjour Malik.
Oui, bonjour. Bonjour l'équipe.
Bienvenue Malik. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous Malik? Est-ce qu'on a un petit souci avec le
Alors déjà, je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Olivier Truchot. Je suis choqué. De se féliciter qu'il n'y a pas eu de mort. Alors là, c'est formidable.
Bah oui.
De se féliciter qu'il n'y a pas eu de mort. Mais c'est quand même normal qu'il n'y ait pas eu de mort. C'est quand même normal qu'il n'y ait pas eu de mort. Et puis à chaque fois,
il faut saluer le sang-froid des forces de l'ordre.
À chaque fois de reprendre le discours de l'Iran, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure pour le. Bon, c'est un peu facile. Hein. On prend toujours les extrêmes.
Ouais, c'est ça votre argument.
Il faut arrêter de prendre l'Iran chaque fois en exemple, Olivier. Il faut arrêter. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi. La démocratie. Aller en Iran, vous allez voir si vous pouvez. Arrêtez de prendre.
Je dénonçais ceux qui parlent de dictature. Et réécoutez mes propos. Quand on dénonce en France la dictature, j'ai envie de dire à ces gens-là, allez voir ce que c'est une dictature.
Vous savez, alors excusez-moi, la dictature, je suis d'accord avec vous, on n'est pas en dictature aujourd'hui en France.
Voilà.
Mais
tout.
On est peut-être en démocratie, mais moi j'ai une espèce de devise qui
Mais je défends pas le 49-3 particulièrement.
J'entends, mais moi je dis la différence entre la dictature et la démocratie. Aujourd'hui, c'est la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Et on y est, aujourd'hui, on cause toujours. Et ce qui se passe avec Macron. Pour revenir au maintien de l'ordre, oui, on a un problème avec les Indiens, on sait pas faire. On a eu le préfet allemand qui était catastrophique, Nunez qui est revenu, qui a un peu assoupli les trucs, mais au final, il est en train de reprendre
Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
On les laisse brûler les poubelles?
On les laisse péter un kiosque?
Non, mais moi ce que je dis, c'est que déjà, on n'arrête jamais, on tabasse jamais les bons.
Ah, mais donc vous voulez de l'ordre alors?
Mais de l'ordre,
avec les gens qui cassent. Aujourd'hui, vous avez vu, on a tous vu des images où des gens ont pris des coups de matraque alors qu'ils étaient juste debout en train de regarder. Moi j'ai vu encore une vidéo avant-hier où il y a un monsieur qui parle à la police, mais très très calmement, très gentiment, et le flic qui lui dit de CRS, qui lui dit dégage de là si tu veux pas mourir. Non mais
sincèrement, vous avez déjà été Malik, vous avez déjà
pense que il y a pas de coup de matraque sans sommation, il y a pas de coup de matraque sans prévenir que ça va charger. Non mais Malik, vous racontez n'importe quoi.
Arrêtez de me dire ça parce que vous venez de province et je pense que même quand il y a une bagarre, vous dites que c'est une émeute. Alors arrêtez avec votre cinéma.
Écoutez Malik, vous avez déjà été en face d'une charge de CRS ?
Oui, tout à fait.
Donc vous savez comment ça se passe une charge de CRS ?
Oui, tout à fait, oui.
Il y a des sommations. Il y a des tirs de lacrymo et après ça charge. Et ceux qui prennent un coup de matraque, il faut pas qu'ils disent qu'ils étaient là par hasard, quoi. Hein.
Ah, parce qu'on peut. Non, on n'a pas dit qu'ils étaient là par hasard.
Bon, alors arrêtez de dire n'importe quoi. Ils sont pas là par hasard, ceux qui prennent des coups de matraque.
On leur a demandé de partir, c'est ça.
Pardon ?
Et on leur a demandé de partir.
Bah oui. Une charge de CRS, ça répond à des règles.
Attention.
Il y a eu même des journalistes, alors qui ont dit on est journaliste, on est là debout, et les flics leur disent vous dégagez quand même. Mais à un moment donné, excusez-moi, c'est pas forcément que des manifestants. Donc arrêtez de dire à chaque fois que c'est toujours les manifestants et il y a eu des sommations et tout à l'heure j'entends
non, je pense que les journalistes s'en remettront.
On n'a pas les images d'après. Ouais. Non, et bah je dis pas que tout est mal. Tout, mais c'est pas un métier facile. Moi je le ferai pas. Personnellement, c'est pas un métier facile, mais il y a eu des débordements et il y a des débordements et il va continuer à en avoir. Donc et je comprends qu'à 1h du matin, c'est pas les bons manifestants, mais allez arrêter ces gens-là. Ces gens-là, on les arrête pas.
Oui, mais c'est pas ça, parce que quand on en arrête un, après on dit oui, mais ils ont été violents, alors oui.
Non, j'ai pas dit ça. Mais aujourd'hui, vous savez très bien, vous avez tous vu des images de personnes qui n'avaient pas, en tout cas, l'air de gens très, très virils, très costauds.
Bien sûr.
Et très
il y a l'enquête pour ça,
général. Il y a eu des femmes d'un certain âge qui ont été traînées par le colbac par terre. On l'a bien vu. Il y a eu des femmes, des jeunes filles même, qui s'offusquaient et qui disaient à la police, me touchez pas. Et on leur mettait quand même des coups de matraque dans les jambes. Alors, me dites pas qu'il n'y a pas de débordement.
Hein. Mais Malu, qu'est-ce que justement, puisque vous parlez de ces coups de matraque, est-ce que vous êtes pour l'interdiction de ce qu'on appelle les braves, les brigades de répression d'action violente?
On a vu ce que ça avait donné en 1986 avec Malik Houssekine. Hein.
C'était pas les mêmes. Là, c'était les voltigeurs.
C'est le même style de police.
D'accord. Hein. Donc vous êtes pour les interdire.
Les voltigeurs étaient sur les motos, les braves ils sont sur la moto. C'est des brigades motorisées. Donc c'est exactement la même chose.
D'accord. Merci Malik d'avoir été dans les GG.
Merci beaucoup.
Bonne journée, à bientôt. Salut Malik du côté du Val d'Oise. On va continuer la discussion. Est-ce qu'on a un problème avec le maintien de l'ordre en France? Est-ce qu'il faut interdire ces braves, ces brigades de répression des actions violentes qu'on voit à moto? Tout de suite au 32-16 avec les grandes gueules.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules, les GG sur RMC, RMC Story, Joël Dagosséry, Didier Giraud et Jean-Baptiste Djebari. On parle du maintien de l'ordre, la manière dont on voit les. Aujourd'hui, c'est surtout les braves qui sont pointés du doigt. La brigade de répression des actions violentes sont elles qui sont montrées du doigt pour la manière dont elles passent près des manifestants, elles interviennent rapidement avec des coups de matraque. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'on a un problème avec le maintien de l'ordre? En même temps, ce qui est très difficile, c'est toujours de comment tu maîtrises et comment tu interpelles ces petits groupes. Parce que, tu sais, je sais plus quel policier avait pris l'exemple de l'essaim. Tu sais, comme une espèce d'essaim d'abeille qui vient, qui pique et puis qui après se barre. Et donc, comme on ne peut plus faire de nasses, tu peux plus les
mais ils en font encore.
Les enfants,
hein. Laurent Nunez a même dit que, Laurent Nunez a dit officiellement sur BFM TV qu'ils en avaient besoin. C'était une technique policière. Mais...
Là, de ce qu'on voit, c'est pas des nasses. C'est vraiment, on les voit arriver à moto, les braves, effectivement, comme le disait Malik, ils descendent de la moto, ils interviennent, mais si tu veux, entre le moment où ils arrivent en moto et le moment où ils interviennent, ceux qui ont commis les exactions, pour beaucoup, ils sont partis.
Mais t'as aussi des vidéos qui montraient.
Oui, mais ils sont cagoulés, ils sont masqués.
Mais compris en tête de cortège, la capacité des braves, ou en tout cas des brigades d'intervention rapide, là, d'aller en tête de cortège, saisir des black box, attraper, les sortir. les judiciariser, etc.
C'est peut-être plus simple quand t'as un cortège qui est formé avec les cérémonies en tête de cortège. Que sur la place de la République, où là, c'est des groupes qui sortent, comme tu le disais, des bouches de métro, qui viennent, qui
encore
font le bordel,
fois,
qui bousculent.
Ils vont faire, ces gens-là, vont faire le jeu du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils pensent que, parce que j'entends bien l'argument, c'est de dire on a manifesté pacifiquement, ça n'a rien donné, maintenant il faut être violent. Mais je pense que ça va être pire, c'est-à-dire que la violence va au contraire resserrer les troupes et les gens vont dire, ils vont avoir la bordélisation, les Français ne veulent pas la bordélisation.
On l'a vu pendant les Gilets jaunes.
Ben oui,
le mouvement a commencé à décroître en popularité quand les violences sont devenues systématiques.
Ça va être pareil, si ça continue avec la grève des poubelles, avec le foutoir, je prends le pari que la sympathie que les Français ont pour ce mouvement va baisser.
Tiens, c'est Charlotte qui va en parler avec nous. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Charlotte d'Indre-et-Loire, graphiste. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez alors du maintien de l'ordre, de ce qui se passe en ce moment?
Alors moi, je suis pas du tout en train de dire que les policiers sont les pires de tous, ou il y a des méchants, il y a des gentils. Enfin, l'être humain, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Il y a des bons policiers, il y en a des mauvais. Moi, je vais vous dire, j'ai vu les vidéos hier soir sur mon téléphone, via Twitter, et je vous avoue que j'ai été assez attristée en fait. J'ai été touchée et choquée. Alors vous disiez par rapport au contexte des vidéos. Pour moi, le contexte ne suffit pas. Un policier n'a pas à foutre un coup de poing à quelqu'un qui vient en t-shirt blanc, qui n'a rien sur lui, qui n'a pas d'arme. Pour moi, ce n'est pas professionnel. Et je pense qu'il faut remettre en question la formation des policiers. Je suis d'accord, les policiers sont peut-être fatigués. Mais fatigués parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent ni dans la police. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Peut-être que des choses ne sont pas faites assez pour les policiers. Et c'est pas forcément qu'ils sont... Alors, ils sont peut-être débordés, mais je suis désolée, mettre un coup de poing et mettre quelqu'un KO par terre, on se dit, mais je suis censée être protégée par une personne qui est capable de faire ça. Et ça peut faire peur. Moi, je suis jeune, hein, j'ai jamais eu affaire à tout ça. J'ai déjà fait des manifestations avec les gilets jaunes, sans tout casser, sans tout rien, parce que je suis contre la justice et quelqu'un qui travaille devrait pouvoir gagner sa vie correctement. C'est un autre débat, bref. Mais moi, ça me fait peur, ce genre de personnes qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions, qui sont censées gérer des situations compliquées, parce que les policiers devraient être formés à ça, et de voir des gens qui matraquent, des personnes qui sont juste là, qui ne sont pas... Parce que moi, je suis désolée, c'est être fort avec les faibles, et faible avec les forts.
Ouais. De toute façon, il y a une enquête. Je veux dire, ce qui est bien dans notre pays, c'est pour ça que on est dans une démocratie, c'est qu'il y a une enquête. Il y a une enquête administrative qui a été lancée par le préfet de police pour savoir précisément ce qui s'est passé avec ce coup de poing. Donc, on saura la vérité.
Je suis d'accord avec vous et j'espère que l'enquête va mener à quelque chose. Mais je maintiens qu'une personne qui n'a pas d'arme, qui vient vers un policier en t-shirt, ne devrait pas se retrouver KO par terre.
Mais la personne.
Mais on n'a pas le contexte, Charles. Quand on dit ça, on dit rien parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant.
Contexte ou pas, le monsieur.
Bah, c'est peut-être que cette personne avec un t-shirt blanc était en train de prendre une palissade et de balancer à son policier.
Oui, mais on peut pas juste l'arrêter. Il faut lui mettre un coup de poing.
Il aurait pu le maintenir, mais il n'était pas obligé de lui foutre une mandale et de le foutre par terre. Je suis désolée. Le contexte, quand il y a une violence comme ça,
non,
ce n'est pas
normal.
Il n'y a pas de contexte, en fait. On a
ah
pas
si, il y a un contexte. Il y a un contexte qui amène un policier à faire ça, madame.
Mais non.
C'est pas possible ce que vous dites.
Si t'as un mec tout seul en t-shirt et t'as 15 policiers autour, tu peux l'arrêter.
Et s'il avait donné un coup de matraque, t'aurais dit quoi, là?
Tu peux l'arrêter. Non, mais arrêtez. Vous faites
non,
comme
mais
si
c'est possible.
Donner un coup de poing comme ça à un mec, en fait, c'est normal parce que je suis policier.
Non,
je suis désolée, tu peux l'arrêter.
Mais c'est pas ce qu'on dit.
Comme disait Malik juste avant, j'ai vu des jeunes filles se faire traîner par terre et se faire foutre des coups de poing. Un SDF a été humilié en lui disant « Relève-toi, gros lard, vous trouvez ça normal que des gens... »
Non, sac à merde.
Non, c'est pas normal de parler comme ça.
Il lui dit « Gros tard, vous trouvez ça normal que... »
Mais Charlotte, personne ne trouve ça normal. Personne, non, un policier n'a pas à parler comme ça.
Ça nous fait nous remettre en question sur les gens qui sont dans la police actuellement.
D'accord, mais c'est pour ça qu'il y a des enquêtes. Soyez aussi dur avec ceux qui commettent des dégradations, qui cassent et qui provoquent et qui jettent des choses sur les policiers.
Mais la question, c'est le maintien de l'ordre.
L'un n'empêche pas l'autre.
Bah oui, mais...
Il y a des manifestants qui abusent et qui sont violents et qui balancent des trucs. Je suis d'accord, mais la police... C'est la police, c'est des
oui, mais Charlotte,
pensés,
Charlotte. Moi, le problème, c'est que depuis hier soir, j'entends que des gens qui tapent sur la police, mais qui ne condamnent jamais les casseurs. J'entendais ce matin Maître Ari Halimi, qui est un peu l'avocat des gens qui condamnent les policiers, qui est très à gauche et qui tapait sur la police. J'entends les députés insoumis qui tapent sur la police, j'entends Sandrine Rousseau qui tape sur la police, et il n'y en a aucun.
On entend Malik, on entend Charlotte,
et j'entends pas ces gens-là dénoncer les casseurs.
Je suis pas
policier,
je suis pas tout ça. Je suis pas
policier.
Mais qu'importe, Charlotte, juger des faits sur un bout de vidéo coupé au montage, ça veut rien dire, quoi. Ça veut rien dire.
On a vu des dizaines de vidéos hier soir qui montrent des violences qui sont inacceptables quand on est policier et qu'on est censé avoir une formation du maintien de l'ordre.
La violence quand on est policier, elle est contextualisée, elle n'est pas, elle n'est jamais gratuite. Il n'y a pas de policier.
Alors,
il y en a, mais c'est des véreux, ils sont à la marge.
Charlotte, restez avec nous, Charlotte. Non, mais restez avec nous.
Est-ce qu'on a un policier qui va appeler?
C'est parce qu'on a Jérôme qui est policier, qui est CRS, justement. Bonjour, Jérôme.
Je ne dis pas que tous les policiers sont des salauds.
Si, vous l'avez dit.
Alors, attendez, Charlotte. Comme ça, vous allez pouvoir discuter, écouter les arguments de Jérôme. Bonjour, Jérôme.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bah, écoutez, passer derrière Charlotte, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je veux dire? Déjà, en fait, j'entends parler des braves. En fait, il faut se dire, c'est que les braves, en fait, ne sont pas formés au maintien de l'ordre à la base. C'est les CRS, c'est nous.
Oui.
Et en fait, ce qui s'est passé entre nous, notamment avec des gilets jaunes, c'était avec le préfet allemand. Lui, il a mis les braves et toutes ses compagnies de sécurisation parce qu'il avait la main mise dessus, que nous, CRS, on est une autre direction. et ils n'avaient pas l'analyse dessus. C'est pour ça qu'on nous voyait beaucoup moins au moment des gilets jaunes.
Simplement. D'accord. Et là, en ce moment, alors, par exemple, le soir, quand il y a les manifestations, en fait, les rassemblements nocturnes.
Bah, en fait, c'est très clair. Nous, à la base, on est là, donc, en observation au cas où ça dégénère. Là, avec le nouveau préfet, donc, en plus de recul, comme vous disiez tout à l'heure. Et le problème, c'est que, bah, les petits groupes, le soir, qui se forment, donc, bah, comme vous avez dit tout à l'heure, bah, ils ne sont pas du tout structurés. Et ils font un peu tout et n'importe quoi. Le souci, donc, avant qu'on fasse des charges, bon, enfin, si je parle niveau CRS, forcément, donc, il y a les fameuses sommations. Moi, le problème, c'est ce qui se passe, c'est que des fois, les casseurs s'entremêlent avec des gens plus ou moins pacifistes. Et les gens pacifistes nous font barrage, justement, quand nous, on fait des charges pour empêcher d'attraper ces gens-là, en fait.
D'accord.
D'où le problème, qu'on voit forcément des fois des images où des gens ont les mains en l'air. Et nous, quand on charge, bon, forcément, on arrive au niveau de l'impact, ça fait des images. Et ces gens-là, bien souvent, se mettre en barrage pour empêcher qu'on interpelle les fameux casseurs.
Alors, Charlotte, vous avez entendu.
Pardon, le coup de poing.
Oui, dites-moi.
Non, mais allez-y. Non, mais est-ce qu'il peut préciser le coup de poing? Comment on le justifie?
Ah, bah, moi, le coup de poing, je ne peux pas vous justifier ça parce que, bon, j'ai vu les images, mais il n'y a qu'une bride d'image. Ce que je peux vous dire, déjà, le coup de poing, ce n'est pas un CRS, déjà, ça, je vous l'ai dit. Et parce qu'on n'agit pas du tout de la même façon que les braves. Parce que les braves ne sont pas formés au matin de l'ordre. Nous, on a une spécificité. Et que les braves ne l'ont pas. Parce que pourquoi? Parce que ça a été créé par rapport aux gilets jaunes, parce que déjà, nous, les CRS, on ne pouvait pas fournir assez d'effectifs. Et deuxièmement, j'en reviens sur la mainmise du préfet d'Allemagne à l'époque, comme nous, on était notre direction, il n'avait pas la mainmise, ça ne lui plaisait pas.
D'accord.
Donc, c'est pour ça. En fait, moi, les images, oui, le coup de poing, bon, après, si le casseur, si c'était apparemment c'était un casseur qui cassait un kiosque, c'est ça, non?
Alors, non, voilà. Alors, moi, j'ai vu d'autres images aussi de ce monsieur en t-shirt blanc qui éteignait une poubelle qui avait été allumée, il me semble, sur Twitter. Il y a aussi des images de BFM qui montrent que ce monsieur n'était pas forcément un casseur, qu'il avait essayé d'éteindre un feu. Après, je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais moi, enfin, monsieur, je suis d'accord que c'est un métier difficile et que je suis totalement nuancée. L'être humain, il peut être à la fois très bon ou très mauvais. Et je pense que dans la police, il y a de très mauvaises personnes qui font du mal à votre institution et des gens qui sont mal formés et des gens qui, du coup, donne une mauvaise image. Je ne dis pas qu'il y a des... D'ailleurs, il y a des casseurs, il y a des black blocs. Et ça, je suis totalement contre pareil. Mais c'est vrai qu'on voit des images. Moi, en tant que citoyenne, j'ai été vraiment au point... Enfin, j'ai été vraiment très mal en voyant ces images. Je me dis qu'ils sont censés me protéger. Oui, dites-moi.
Si je peux me permettre, en fait, quand vous parliez tout à l'heure, vous et puis les intervenants par rapport aux arrestations, il y en a très peu. En fait, ça s'explique très facilement par rapport à notre travail, nous, en tant que CRS. Mmh. Et en fait, le problème, c'est que quand on est en manifestation, le problème, c'est que si on interpelle un individu au moment des faits, nous, on doit se retirer avec cet individu-là pour aller faire une procédure au commissariat. Vous comprenez bien que si la moitié de la compagnie s'arrête de travailler parce qu'on a interpellé 35 personnes, et la journée, la manifestation dure sur plusieurs heures. Donc, on peut pas. En fait, on doit faire des mises à disposition, si vous voulez. On appelle le commissariat qui vient chercher l'individu. Malheureusement, donc, il va au commissariat. On fait notifier pourquoi nous, on l'a interpellé. Le problème, c'est qu'après, au niveau de la magistrature et des avocats, ça casse quasiment systématiquement la procédure parce que les faits ne sont pas assez étayés, parce que nous, on n'est pas au commissariat pour rédiger le procès-verbal.
Je suis d'accord, monsieur, mais hier, on a eu l'impression que les arrestations étaient totalement arbitraires. Moi, j'ai vu des jeunes filles, comme disait Malik, se faire emmener au commissariat et qui ne comprenaient pas pourquoi. Une personne de 50 ans qui était en terrasse, les CRS ou je ne sais qui...
De toute façon, elles ont été relâchées, les jeunes filles.
Ils ont été arrêtés, mais qu'ils n'ont rien fait. On a l'impression que les Black Blocs s'en tirent vraiment à chaque fois et que c'est vraiment des gens qui ne comprennent pas.
Question, Jérôme, parce qu'effectivement, il y a eu plus de 200 gardes à vue et puis finalement, au final, il en reste pas grand chose.
Bien sûr, mais à chaque manifestation, c'est comme ça. Ça fait 22 ans que je suis dans la police. Ça fait
8
ans que
je suis dans la CRS.
Comme je vous ai dit.
Vous arrêtez pas les bons.
Non, c'est la procédure qui est cassée parce qu'ils n'arrivent pas à rester à côté du mec qui.
C'est ça, c'est tout simplement ça. Il faudrait que
celui qui interpelle aille jusqu'au bout de la procédure.
Tout à fait. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas parce qu'on n'est pas assez d'effectifs, sinon il n'y a plus personne sur le terrain. Et en fait, des avocats et des magistrats cassent régulièrement les procédures. Parce que les fonctionnaires ne vont pas faire le procès verbal, parce que forcément, pour qu'on reste sur le terrain.
Merci Julien, merci Jérôme, pardon Jérôme et Jérôme et Charlotte. Attendez, Jérôme, Charlotte, j'ai des places pour aller voir John Wick.
On y est ensemble.
Ça va vous calmer, vous
allez voir. Parce que je peux vous dire que John Wick, lui, le maintien de l'ordre, il sait faire. Et c'est pas très démocratique.
On ira le voir ensemble.
Ça, ça se passe à Paris. Si t'envoies John Wick, place de la République, je peux
te
dire.
Moi, monsieur, je n'ai rien contre vous. Non, c'est pas facile.
Merci bien. Vous voyez,
finalement, on s'entend bien. Moi, je suis pas en désaccord. Je fais juste part de mon avis après.
Mais c'est pour ça que vous êtes dans les GG, la discussion entre Charlotte et entre Jérôme, entre la graphiste et le CRS.
Charlotte, elle est vraie, c'est une vraie grande gueule, Charlotte.
Un peu, oui.
Et il faudrait venir peut-être un jour nous voir.
Oh, mais peut-être un jour, on verra.
Salut Charlotte, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
À bientôt, Charlotte. Bonne journée, Jérôme. Et bon courage. Là, vous allez être encore sur le pont, là,
c'est
ces jours-ci?
Demain.
Demain?
Oui.
Mais une grande journée sur demain. Paris?
Non. Demain, je serai soit sur Nantes ou Rennes. Je sais pas encore.
Ah, ben, c'est avec les poètes. Avec les poètes.
Ils ont eu la petite formation à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Ça va être chaud demain.
Ouais, probablement.
Parce que c'est peut-être le barreau d'honneur demain.
Merci Jérôme, merci Charles. Alors, est-ce qu'on a un problème avec le maintien de l'ordre en France? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux.
Même,
oui, 71%. Ouais. Ah, je suis content. On revient à nos deux tiers, trois quarts. Il faut rester des choses stables. Voilà. 70% de oui, on a un problème. Dans un instant, les indiscrets GG, Elisabeth Borne qui fait de la calinothérapie avec les députés. Puis on aura le quiz des grandes gueules. Et à 11h, tout à l'heure, président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Aujourd'hui dans les GG, Joël Dagosséry, coach de vie. Nous sommes avec l'agriculteur Didier Giraud et l'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari. On y va pour les indiscrets du service politique d'RMC.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Romain Cluzel est avec nous. Bonjour Romain.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules.
L'exécutif multiplie les consultations pour relancer le quinquennat, mais ce qui se joue aussi en coulisses, ce sont les relations en interne dans la majorité.
Oui, plusieurs épisodes ont laissé des traces ces dernières semaines entre Renaissance, Modem et Horizon, sur les retraites, les peines planchers ou encore les violences conjugales. Alors hier, la chef de la majorité, Elisabeth Borne, a fait la tournée des réunions des trois groupes parlementaires. Un passage loin d'être anodin et perçu comme un signe de considération. D'ailleurs, le patron d'Horizon, Édouard Philippe, était présent pour recevoir en personne la première ministre hier. Selon un participant à la réunion, Elisabeth Borne a insisté sur l'importance d'une majorité unis pour continuer d'avancer. Réponse en forme d'aveu d'Édouard Philippe, on a des marges de progression. Et l'ancien Premier ministre le redit ce matin dans le Figaro, on peut travailler en bonne intelligence pour que les quatre années qui viennent ne soient pas quatre années d'incertitude ou de blocage.
Alors ça c'est pour le constat, mais comment améliorer les choses?
C'est tout le problème Alain, pour l'instant aucune solution miracle ne semble émerger. Se tirer dessus à boulet rouge, ça ne sert à rien. La seule solution c'est le dialogue, s'agace un Modem, qui prend davantage de communication entre les groupes, notamment pour ne pas découvrir au dernier moment des textes présentés par d'autres membres de la majorité. Et puis, ça n'a l'air de rien, mais il y a aussi les relations humaines à travailler entre les parlementaires. Exemple, avec Aurore Berger et Laurent Marcangeli, ils sont respectivement présidents des groupes Renaissance et Horizon, et leurs rapports sont plus que distants, c'est de notoriété publique. La politique, c'est de l'humain. On doit fonctionner différemment. Nos partenaires, il faut les entendre, s'exclame un macroniste.
Donc, le manque de communication, il est d'abord entre les chefs des partis.
Mais c'est le reproche d'une députée macroniste. Selon elle, ce sont d'abord François Bayrou, Édouard Philippe, qui provoque les tensions en voulant à tout prix se démarquer d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, Édouard Philippe, il sera particulièrement scruté ce samedi. Il y a le congrès de son parti. Et la situation risque de ne pas s'arranger avec le temps. Plus le quinquennat avance, plus François Bayrou et Édouard Philippe vont être en compétition, anticipe un député Renaissance. Mais tout le monde se tient par la barbichette. Personne n'a intérêt à la cassure, conclut une élue Renaissance, qui est convaincue que les trois alliés sont plus que jamais dans le même bateau.
Jean-Baptiste, toi qui as vécu ça de l'intérieur.
Mais non, je crois que Romain a très bien synthétisé les choses. La mission d'Elisabeth Borne, c'était d'abord d'essayer de solidifier cette majorité. Cette majorité, elle a été fragilisée, y compris au moment où il voulait aller au vote. Il y avait soit des abstentions, parfois même des gens qui disaient vouloir voter contre la réforme. Puis par ailleurs, les patrons de ces groupes, Horizon, Édouard Philippe et François Bayrou, vont jouer leur carte personnelle pour 2027. Et ça va arriver finalement assez tôt, ça va être deux ans avant, donc 2025. Et on voit bien que le sujet, c'est de savoir comment eux arrivent sur l'année et demie qui viennent, les deux ans qui viennent, à tenir une plateforme de coalition, à tenir quelques réformes et à faire en sorte que la paix sociale soit présente. Donc l'équation n'est pas du tout simple.
Oui, mais on a un président qui, il y a quelques mois, théorisait encore le fait de de procéder autrement, de travailler autrement, d'écouter davantage, et y compris sa majorité. Là, Romain, il l'a dit depuis tout à l'heure, c'est pas de dialogue, on peut travailler en bonne intelligence, mais ça ne vient pas, on se tire de dessus à boulet rouge. Donc, on a attiré aucune leçon, quoi, si tu veux.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas la personnalité d'Elisabeth Borne aussi? Parce que, enfin, ouais. Désolé, à l'entraîneur, ça doit être d'abord et avant tout entraînant. La différence entre Fabien et Christophe Galtier, bah, c'est qu'il y en a un, il met l'humain au cœur, et il est entraînant et ça marche, et puis l'autre, non, quoi, hein.
Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de casting?
Moi, avec moi je pense Born. Que la personnalité même d'Elisabeth Borne, ça pose un problème sur rassembler des gens qui sont au début des fissures, quoi. Plus, voilà.
Le problème de Madame Borne, c'est que c'est une haut fonctionnaire qui fait de la politique.
J'ai toujours dit ici, c'est un rond de cuir, quoi.
Elle a pas de passé.
Elle a pas de terrain.
D'ailleurs, comme Macron, d'ailleurs, les deux sont un peu pareil.
Oui, mais ça va au-delà de Borne.
Et il y a un problème d'empathie, parce que, pardon, depuis 2017, on redit toujours la même chose. Oui, manque d'humanité, manque d'empathie, manque de compréhension des gens.
Changement de méthode.
Voilà, changement de méthode. Et en fait, on a quand même des gens qui sont sans doute. Moi, je pense qu'Elisabeth Borne, dans les dossiers, elle est très bonne, mais qui manque effectivement ce qui fait la politique.
C'est le problème quand les dircabs deviennent ministres ou premier ministre. C'est ça le problème. C'est les dircabs, quoi.
Le seul qui avait ça, c'était un peu Jean Castex, mais Jean Castex, il était maire, il avait cette bonhomie, ce côté un peu comme je comprends.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que Édouard Philippe et Jean Castex venaient de la droite politique, avaient une culture politique, avaient une culture des partis. Et ce qu'on peut, et voilà, pour le coup, j'en prends aussi ma part, j'en ai fait partie. Ce qu'on peut se reprocher dans l'arc modéré, je le mets entre guillemets, c'est qu'on n'a pas su recréer de vrais partis politiques, de doctrines politiques, et qu'en fait, on voit bien que les propositions politiques fortes, elles s'exercent aujourd'hui aux deux extrêmes. On a rabardé là tout à l'heure, et ça, malheureusement, c'est pas un succès de notre part.
Non, mais
Joël.
Emmanuel Macron, je pense, il voulait remplir deux cases, donc il fallait une femme. Il voulait être un peu moderne, donc il fallait une femme. Ouais. Et il voulait aussi un petit soldat. Et peut-être que Elisabeth Borne répond à ça. Enfin, je vois qu'elle est. Je crois que c'est une
elle
très bonne.
Voilà, elle fait ce qu'on lui dit, etc.
Mais ça fait pas de toi un leader. Ça fait pas de toi quelqu'un qui peut entraîner, rassembler, fédérer. Ça fait pas de toi tout ça. Et donc c'était quelque part bizarrement au président de la République de réussir ça, mais le problème c'est que il a pas compris ce qui s'est passé dans les élections législatives. On lui a dit il faut justement un peu plus d'humanité, on lui a dit à travers les urnes il va falloir composer, beaucoup plus composer, et c'est pas ce qu'il fait. Je pense, comme le disait tout à l'heure Didier, je sais pas comment il est monté, mais en tout cas il n'est pas de nature à composer, et c'est ça le problème. Moi, je pense qu'elle vient vraiment plus de lui que des autres. Oui.
Non, mais ça peut venir. Enfin, outre Madame Borne, il y a aussi des élus. Il y a des présidents de groupe. Donc, c'est aussi à eux aussi à faire le taf,
mais
à faire le
job. Eux, quoi. Ouais. Du coup, eux, ils ont.
Tu peux très bien te dire, écoutez, l'autre, elle est nulle. Bon, les gars, il faut qu'on se parle. Tu prends un peu le pouvoir, tu prends la main et tu fais en sorte que ça se passe bien.
Il y a aussi beaucoup moins de grands barons politiques avec le non-cumul des mandats. Objectivement, les hommes politiques aujourd'hui, ils sont soit maires, soit députés.
Voilà,
et de fait, tu as beaucoup moins, tu as quelques personnes qui comptent autour du président, François Bayrou, Édouard Philippe, mais ça se compte quand même sur les doigts d'une main.
Regarde les grandes personnalités.
Qui ont un vrai parcours politique.
Regarde la droite, et c'est d'ailleurs le problème de la droite à l'Assemblée, les grandes personnalités de droite ne sont pas députées. Elles sont présidentes de région. Je parlais de Wauquiez, Pécresse, Bertrand.
Et alors, ceux qui comptent encore, c'est Nicolas Sarkozy.
Les présidentiels, en fait, ils sont pas députés.
Merci. Merci Romain Cluzel d'avoir une nouvelle fois provoqué la discussion avec les indiscrets.
À demain, Pradier. Olivier ne croit pas en Pradier.
Allez, dans son
le Jaurès de droite.
C'est peut-être le meilleur à l'Assemblée. Oui.
La parole au sage de Châteauroux, c'est le quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
C'est le bazar quand tu passes derrière Romain Cluzel.
Ah, ouais, comme ça les vestes Châteauroux, c'est ça alors du coup.
Ouais.
Ah, c'est intéressant.
Non, mais j'ai entendu que ça se trouve, il y a peut-être un remaniement. Donc moi je dis.
Ah ouais, t'as mis une veste,
je suis prêt. Je suis prêt, monsieur le président. Je viens de me binger les trois saisons de Baron Noir là depuis. Je suis Philippe Rigard. Il n'y a pas de. Bref, comme je suis entouré de deux rugbymen ici présents et d'une coach.
Ah oui.
Je me suis dit, tiens, petit quiz sport. Voilà.
Ah, c'est bon, ça.
Ouais, j'aime bien le sport. Didier aime bien le sport. Tout le monde aime bien le sport.
Début. Ouais, surtout.
Début bien le sport.
Extrêmement facile. Qui Didier Deschamps a choisi comme nouveau capitaine de l'équipe?
Kylian Mbappé. Au grand désespoir de Griezmann.
Alors certains disent que parce qu'il est arrivé avec la coupe rose, il avait une coupe rose, Griezmann, les cheveux roses, il aurait perdu le brassard là-dessus.
Non,
c'est une blague.
Non, je crois que Deschamps est malin et qu'il a vu lequel serait plus... Non,
le Il y en a un qui est là pour 10
lequel
ans.
Lequel serait plus préjudiciable à faire la gueule que l'autre?
Ouais, c'est pas bête ça. Ouais.
Ouais. Bah, et Mbappé, il a vraiment la grinta. Moi, je trouve que ce qu'il a montré, y compris dans la défaite, le fait de pas accepter la défaite, il a ouais. vraiment un gros mental.
C'est
mmh. plaisir.
Oui, puis c'est l'avenir, les quarts de finale.
Ouais, son comportement lors de la finale de Coupe du Monde.
Et comme dit Jean-Baptiste, le lendemain aussi, sur Aucry.
Il a quel âge, Griezmann?
Il est de 92, je crois. Il a un an de plus que ouais. moi. Il doit avoir la trentaine.
Dommage, voilà. Un mec
donc,
91
de Noir, donc Deschamps fait le pari de la nouvelle équipe de France. Voilà, c'est le retour de Mbappé.
Mmh. C'est-à-dire que Mbappé, il est capitaine en équipe de France.
Et peut-être au PSG.
Et pas au PSG encore.
Il va l'être.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est.
Quand Marquinhos
sera dégagé.
Est blessé, c'est lui qui est capitaine.
Ou alors il sera capitaine du Real.
Allez, on enchaîne. C'était une imitation pourrie de Gilbert.
Bribois, l'after.
De l'after. Ah oui, bah oui, moi je suis tellement RMC, je précise même plus. 5h, 50 minutes, 51 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Alex Roca Campillo pour terminer ce dimanche 19 mars le marathon de Barcelone. Mais alors pourquoi c'est un exploit incroyable?
Ah, c'est les polyhandicapés.
Oui. Exactement, bravo Joël. Il a 76% d'incapacité et il a réussi alors que les médecins avaient dit qu'il ne pourrait même plus vivre. Il a réussi à accomplir le marathon de Barcelone en moins de 6 heures.
Ouais. Félicitations. Ouais. On a notre.
On
a une marathonienne dans l'équipe.
Et oui, c'est
Camille Roual, notre chef d'édition, qui se prépare, qui a fait le semi-marathon et qui s'apprête à faire le marathon là.
Dans un mois là, jour, à peu près là.
Si j'ai fait le semi-marathon quand j'étais bonne.
Comment, Joël?
Quand j'étais jeune, j'ai fait le semi-marathon.
Ah, bravo!
J'avais 30 ans.
Et alors, t'as fini comment?
T'es arrêté au semi?
T'avais gardé tes talons ou...
Quel mépris.
Non, mais vraiment, c'est sous-estime.
Comment on peut s'inventer un passé, quoi, je veux dire.
Mais c'est pas vrai! J'ai les images.
Tu balances ça à la radio?
Invérifiable.
J'ai des photos.
On continue, Louis.
J'ai aussi 12 à Grammont
en troisième mi-temps.
Jamais.
Alors, on va parler de Zombor Senko. C'est un gardien de but du Győr Vétaka en Hongrie. Donc là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il me raconte? Eh ben, il a fait sensation à Budapest dans le championnat de deuxième division lundi dernier. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous l'avez pas vu?
J'ai vu.
Il a rendu malheureux un petit garçon.
Ah si, il a arrêté tous les buts.
Ah oui, il a arrêté ses buts. Ah non, mais vraiment.
Il y a un petit qui a fait un coup d'envoi.
Raconte Jean-Baptiste.
Il y a un petit qui fait un coup d'envoi, donc il va vers le but, il tire une première fois, le goal arrive, il revient, le goal arrive. Et non, c'est terrible. C'est terrible pour le petit.
C'était son anniversaire au petit et son rêve, c'était de marquer un but dans ce stade. Vous pouvez voir les images sur RMC Story, sinon vous les retrouvez très facilement sur Twitter. Et le gardien, voilà, lui brise son rêve en lui arrêtant ses deux ou trois tirs de suite. Et la dernière image, c'est le petit dans les bras de son père et on le voit détruit, il n'y a pas d'autre mot.
Il est con, ce gardien.
C'est horrible, mais oui.
Et puis horrible.
Regardez-le, le petit là.
Il bazarde le ballon hyper loin.
Mais oui, allez, retourne chez toi, gamin. C'est le gardien du Győr Vétaka, un club de deuxième division hongroise.
Ça ne l'amusait pas du tout, quoi, le jeu là.
Non, mais entre lui et Martinez, les gardiens, ils sont pas fins parfois.
On continue.
C'est terrible, c'est mignon.
13 footballeuses françaises vont s'envoler aujourd'hui pour l'Afrique du Sud afin de participer à un tournoi international, un tournoi un peu spécial. Pourquoi? Donc c'est 13 footballeuses françaises, mais il y a une particularité chez elles.
Elles sont toutes blacks?
Non.
Elles sont non-voyantes?
Elles sont toutes, allez, je le dis, elles sont toutes vieilles. Voilà.
Vieilles? Qu'est-ce que c'est donc quel âge?
Quel âge ont-elles?
C'est la Coupe du Monde des mamies. Entre 52 et 68 ans, nos Françaises vont affronter le Zimbabwe, le Togo et l'Afrique du Sud.
52, 68 ans, t'as dit elles sont vieilles.
Elles sont toutes vieilles. Non, elles sont
pas vieilles.
Non, mais je le dis en provoquant volontairement. Moi, je joue le jeune, j'ai 29 ans. Pour moi, tu te rends compte, 52. Non, on avait une photo d'une des candidates, mais moi, j'attends d'avoir la photo du premier match. Toute l'équipe, on va suivre leur parcours.
On peut le voir en ligne ou pas?
C'est quoi? C'est la Coupe du Monde des
Mamies? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on va les suivre et on leur souhaite,
Allez, championne du monde.
Allez, la France.
Le petit dernier.
Allez, pour finir, on est avec.
C'est dur en fait. Hein.
Ouais, t'as vu, c'est dur. Voilà, là, je reviens à facile pour finir. Quelle personnalité a-t-on entendu dire sur Instagram? Arrête, papa, on va être en retard.
Ah, Marcus Thuram.
Très bonne réponse, Joël. Bravo. Oui. On va voir et écouter la vidéo. C'est Lilian Thuram qui laisse partir ses deux enfants à Clairefontaine. Sûrement la vidéo la plus mignonne de la semaine.
Et Marcus, reviens, papa. Coucou.
On est en retard, papa.
Ouais, ça va. Allez, arrêtez.
Voilà, bisous.
Bonne journée.
Merci.
Ah ouais, mais en même temps, Marcus Thuram et Kefrem Thuram, les deux frangins de l'équipe de France.
Vous avez déjà accompagné vos enfants à l'école, vous avez dû connaître ça quand vous leur mettez la
main. C'est extraordinaire que dans la même famille, dans une fratrie, que t'as quand même deux joueurs sélectionnés équipe de France.
Du père qui lui a déjà une carrière incroyable.
Les gens de l'équipe de France, notamment de 98, c'est rarissime.
Qui a été longtemps.
C'est même inédit, je crois.
Il a été longtemps record du nombre de sélections. Et oui, ça doit être hyper émouvant pour un père. Enfin, moi, je le vois à mon petit niveau, tu vois. Quand tu peux plus et que tu regardes ton gamin jouer, c'est quand même un moment particulier. Là, tu vois tes deux gamins qui partent en équipe de
France. Alors que dans le rugby, c'est une qualité d'être fils d'eux. C'est comme
merci.
Ça. C'est
bien. Il y en a plein. Merci, monsieur Louis Gerbier.
Merci à vous. À demain.
Face au GG avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.